Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h. Les grandes voix qui sont là autour de vous, Sébastien Krebs, pour décortiquer l'actualité de ce vendredi. Ce soir, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, et Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. On parlait du plan de Renault, plan d'économie, hein, qui va impliquer 4600 emplois supprimés en France. Fabien Gage de la CGT était avec nous. On entend la colère qui monte chez les salariés. Et, il parle déjà d'action, potentiellement de grève. Le site de Choisy-le-Roi qui va fermer. Emmanuel Duteil, commençons là-dessus peut-être avec vous. Est-ce que ce plan est vraiment moins pire que prévu ? Est-ce que l'État a réussi à peser, à sauver quelque chose ?
Mais l'État ne voulait pas peser. Pour la première fois de sa vie dans sa doctrine sur les entreprises, l'État a accepté qu'une entreprise comme Renault puisse fermer des sites. Dès le démarrage, la direction de Renault leur a dit, de toute façon, ça ne sera pas possible sans ça. Alors, ils ont obtenu un petit peu de communication politique, puisque depuis quelques semaines, y compris ici à Europe 1, on disait que trois usines devaient fermer, celle de Choisy-le-Roi, celle de Dieppe où est produite l'Alpine, et du côté de la fonderie de Bretagne. Ils n'en annoncent officiellement qu'une, je pense qu'on ne prend pas énormément de risques, c'est-à-dire que les deux autres sont menacées. Dieppe, de toute façon, elle s'arrêtera d'une manière ou d'une autre quand l'Alpine actuelle sera terminée, puisque la future Alpine devrait être électrique.
Alors que là, le terme qui est utilisé, c'est reconversion.
Oui, reconversion et revue stratégique. Enfin bon, on sait ce que ça veut dire quand on lance tout ça.
Tous ces sites sont en sursis.
Ces sites sont en sursis parce que ce sont de petits sites. Et Renault, là, ne s'en cache pas. Je vous dis, l'Alpine, elle partira à Douai sûrement pour le prochain modèle, puisque c'est là-bas qu'il y aura toute la plateforme électrique. Et puis, ça laisse du temps de voir venir. Donc, après, ce qui est quand même très important, c'est-à-dire que il faut avoir conscience, et je ne sais pas si beaucoup de monde ont conscience de cela, que c'est véritablement la survie de Renault qui est en jeu. C'est vrai que ça peut paraître fou, hein, il y a un an et demi, deux ans et demi, Renault était le premier constructeur mondial grâce à son alliance avec Nissan et Mitsubishi. Aujourd'hui, ils vendent toujours beaucoup de voitures, ils doivent être troisième vendeur mondial de voitures, mais ils ne gagnent pas d'argent, pas assez d'argent sur chaque voiture qu'ils vendent. Donc ce plan d'économie, il vise à donner un avenir à Renault et à retrouver ses lettres de noblesse pour être demain l'un des acteurs principaux de la transition énergétique. Donc, l'État n'a pas du tout cherché à peser sur le moins ou sur le plus dans ce plan.
Emmanuel Macron avait quand même dit qu'il demanderait des garanties sur l'emploi en échange des 5 milliards de prêts.
Non, il n'a jamais dit qu'il demanderait des garanties sur l'emploi, justement. Il a dit qu'il faudrait que les choses soient maintenues, les engagements qui avaient été pris, par exemple, de développement de Maubeuge et de Douai, il faudrait les maintenir. Mais ici même, Bruno Le Maire, il y a une semaine pile, vendredi dernier, est venu dire sur Europe 1, ma doctrine, je ne conditionnerai pas le plan au fait qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois. Ça a été la doctrine du gouvernement sur ce plan, parce que l'entreprise, aujourd'hui, est dans une situation très compliquée. Et socialement, ça va se tendre en interne. C'est généralement une boîte qui gère plutôt bien ses relations sociales. Alors, ça le fait encore mieux que Renault, mais bon, ils savent quand même plutôt bien le faire. Donc ça va être compliqué dans les semaines à venir.
Et c'est un dossier politique, Mickaël Darmon, parce que, on l'a vu, c'est le président qui a annoncé tout le plan sur l'automobile, il s'est engagé sur ces dossiers.
Oui, et ce qui montre bien qu'effectivement, avec ce déconfinement qui s'accélère, c'est aussi une autre urgence qui est maintenant en train d'arriver, c'est l'urgence économique. On le voit avec Renault. Renault a toujours été le symbole. On a toujours dit effectivement que tout se passait autour de Renault pour être le baromètre de l'économie française. Quand il y avait cette formule, quand c'est Renault qui tousse et la France qui s'enrhume, c'était comme vraiment on a toujours dit que c'était autour de Renault que pouvait se mesurer la situation et la santé du pays. Et bien, une fois de plus, on va voir peut-être dans quelle mesure c'est cette entreprise emblématique qui va raconter aussi la crise qui avance, qui s'accélère. On l'a vu aussi avec l'explosion du chômage et uniquement d'ailleurs la fin des CDD, des contrats courts, pas encore les licenciements secs, les cascades de plans sociaux qui se préparent. On voit bien que une fois que cette opération qui semble réussie du déconfinement sera donc vraiment derrière nous, à ce moment-là, eh bien, il n'y aura pas tant de soufflet pour l'exécutif et une autre urgence. Donc ça posera
c'est le point le plus important, mais on en parlait déjà hier soir. C'est-à-dire que personne ne sait comment on sort de la perfusion sociale qui est mise pour le moment. Personne ne sait, pour une raison toute simple. Moi, j'en parlais avec plusieurs membres proches du gouvernement qui disaient tout simplement personne ne sait parce que c'est historique la situation que l'on vit. On a jamais vécu ça de notre histoire. Parce qu'on donne la sortie de la guerre, mais la guerre, il fallait la reconstruire. Donc, a priori, on savait qu'à un moment, ça allait bien repartir. La Grande Dépression, c'est plutôt proche. Mais se référer à ce qui se passait dans les années 30 et aujourd'hui, c'est un poil différent.
C'est totalement différent.
Ce qui est complètement fou, c'est que cette crise sera enseignée d'un point de vue économique dans les années à venir.
Dossier épineux, dossier lourd à suivre, évidemment. On va parler de l'école dans quelques secondes avec Ève Roger, parce que là aussi, c'est beaucoup plus compliqué qu'annoncé. A tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
Ève Roger, je me tourne vers vous parce que le dossier de l'école est loin d'être terminé. Jean-Michel Blanquer, pourtant, dans ses mots avaient l'air simples hier. Toutes les écoles seront ouvertes la semaine prochaine. Il n'y a rien de plus clair. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est bien plus compliqué que prévu.
Oui, alors pour comprendre ce qui se passe, cette cacophonie, il faut d'abord avoir en tête qu'au départ, quand on a dit on rouvre les écoles le 11 mai, aucun parent voulait y aller. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des sondages, on était à 60% des parents qui ne voulaient pas y aller. Et puis maintenant, on se rend compte que finalement, l'épidémie est beaucoup moins virulente que ce qu'on craignait. Et puis que donc finalement, plus de parents veulent y aller, sauf qu'effectivement, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Alors il y a une raison objective, c'est un protocole sanitaire qui est extrêmement strict. Donc 10 à maxi 15 élèves par classe. Donc ça, personne ne peut le contester. En revanche, ce matin, Jean-Michel Blanquer accuse, les collectivités locales, en particulier la mairie de Paris, de manquer de personnel municipal. Alors, vous pouvez me dire pourquoi on a besoin de personnel municipal pour faire la classe. Hein. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le personnel municipal doit être plus important parce qu'il faut nettoyer régulièrement les salles. Ça fait partie du protocole de sanitaire. Et puis aussi, ce personnel municipal, c'est un peu les animateurs en vrai, qui doivent pouvoir faire des activités culturelles et sportives. Ça fait partie des quatre situations. Vous pouvez être à l'école, vous pouvez être à la maison, vous pouvez être en train de faire des activités culturelles et sportives. Donc ça pourrait accueillir des enfants. Sauf que là, la mairie de Paris aujourd'hui dit « Nous, on a mis le personnel municipal qu'il fallait. » Non, c'est pas nous, c'est les profs. Alors là, on saute vers les profs. Alors pourquoi il n'y a pas assez de profs? Pourquoi il n'y a pas assez d'enseignants, d'instituteurs et de maîtres et de maîtresses? Et parce qu'on leur a dit au début, si vous avez peur, et vous pouvez rester chez vous. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez rester chez vous. L'éducation nationale s'est montrée très compréhensive.
Et il y a des chances que ça bouge et que ça s'améliore dans les semaines qui viennent ?
Alors, la première raison objective dont je vous ai parlé, c'est le protocole sanitaire. Il a été dit hier qu'on ne bougerait pas. Donc, en réalité, ça va être juste sur la bonne volonté, sans doute des enseignants, peut-être, que, effectivement, je pense qu'il va y avoir quand même un mouvement, peut-être mettre un peu plus d'élèves par classe, en respectant la règle des 4 mètres carrés. Peut-être qu'il va y avoir un petit effort là, parce qu'on sent quand même l'impatience des parents. Et ça, c'est important.
Jean-Michel Blanquer, il dit aussi, il assure que toutes les familles qui le souhaitent devront pouvoir scolariser leurs enfants au moins sur une partie de la semaine à partir de la semaine prochaine. Il y a des chances qu'ils puissent tenir cette promesse.
Mais comment une demi-journée même par semaine, comment ça vous pouvez soulager des parents en prenant les enfants une demi-journée par semaine? Je pense que ça doit être possible, même en faisant des activités sportives et culturelles. Enfin, Virginie Salmen nous l'a dit, il y a 400 communes qui l'ont mis en œuvre ou qui sont en train de le mettre en œuvre sur 31 000 ou 35 000. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose.
Est-ce qu'on se complique pas un peu la vie? Il reste quoi, 3 semaines avant la fin des cours?
Eh bien, est-ce qu'on peut laisser les enfants? Mais c'est c'est très important pour les enfants de retourner à l'école, c'est important pour leur équilibre psychique.
22%, ils sont 22% aujourd'hui à être retournés à l'école.
C'est ça. Je sais pas, je peux vous parler de ma fille qui est en troisième. Je sens qu'elle est au bout de sa vie, comme elle me le dirait comme ça. Elle a envie. Il y a quelque chose, un sentiment de.
Elle va pouvoir y aller.
Pour l'instant, elle est en troisième dans une zone orange. On n'a pas de date pour la troisième dans les zones oranges. Je ne sais pas. Peut-être dans 15 jours, elle ira peut-être une demi-journée. Mais c'est vrai que c'est très important pour que les enfants retournent à l'école pour eux-mêmes, quoi.
Même une demi-journée.
Même pas pour les parents. C'est important parce que ce lien, ça veut dire que pendant 6 mois, ils n'auront pas été à l'école. C'est quand même, dans la vie d'un enfant, c'est quand même une énorme rupture. Donc c'est quand même très important de garder le lien. Et je vois bien, pour vous reparler de quoi je vois, c'est-à-dire qu'elle travaille moins. Elle travaille moins qu'il y a un mois ou qu'il y a un mois et demi. Elle est moins... Le lien se distend, quoi.
Et ça a des conséquences économiques, Emmanuel Dutheil.
C'est-à-dire que la vraie reprise économique ne pourra pas intervenir si les parents ne peuvent pas aller travailler. Et ça, ça va être un vrai souci. Et les exemples que donnait Ève, moi je peux vous donner deux autres exemples personnels. Un des collaborateurs de mon équipe au service économie et sociale a appris hier, au même moment où Jean-Michel Blanquer était en train de parler, a reçu un mail de son école pour dire, c'est en banlieue parisienne, pour dire, désolé, l'école ferme pour votre fils, venez chercher ses affaires, il n'y aura plus d'école jusqu'à la fin du mois de juin. Donc vous voyez, on est obligé, là, dans un cas très concret, de s'organiser avec le papa, parce qu'il va devoir garder, du coup, son fils à la maison. Donc, il y a plein de gens qui vont se retrouver dans ce cas-là. Donc, il va falloir absolument trouver des solutions pour que les gens puissent aller travailler, parce qu'on a beau dire le télétravail, bah, tous nos auditeurs là, qui sont en voiture ou à la maison, qui ont essayé de télétravailler avec des jeunes enfants ou avec des enfants,
pas facile.
C'est pas une journée pleine de travail, c'est totalement impossible même dans certains cas.
Et surtout quand on parle d'enfants qui ont l'âge d'aller à l'école primaire,
bien sûr, faut aussi gérer les quelques devoirs. Elle doit être capable de s'organiser toute seule, mais c'est capital pour que l'économie puisse repartir, que les enfants aillent à l'école. Alors moi je suis désolé, je prends le pendant inverse d'Eve qui elle dit c'est très important pour les enfants, et ça je l'entends et j'en suis totalement persuadé, mais il y a aussi le pendant parent pour reprendre une activité économique importante, il va falloir pouvoir retourner travailler.
Et Eve le disait, donc ça tourne à la bataille entre la mairie de Paris et le gouvernement sur ce dossier, avec des propos assez durs des deux côtés aujourd'hui.
Même oui, c'est effectivement, on a surtout entendu Jean-Michel Blanquer ce matin tirer à boulet rouge sur les collectivités locales, en particulier sur la mairie de Paris. La réponse ne s'est pas fait attendre. Hein. Il y a eu une réponse du premier adjoint à la mairie de Paris, Manuel Grégoire, qui a répliqué de manière assez verte également, en disant ce sont des propos honteux et on va répondre avec la même inélégance. Que fait le ministre. Il n'a pas intérêt à s'avancer sur ce terrain-là parce que ce serait très imprudent, et eux ont accusé.
Il y a quoi derrière, le deuxième tour des municipales arrive.
On est au-delà du deuxième tour des municipales. On est quand même effectivement sur une reprise de la confrontation politique. Nous sommes à 2 ans de l'élection présidentielle. Et bien évidemment, avec le déconfinement, c'est la politique qui se déconfine également. Hein, et puis surtout, on rentre dans l'ère de la préparation de la campagne. On sait très bien qu'un autre projet va être travaillé, pensé, proposé, peut-être aboutira sur un remaniement gouvernemental prochainement. Et avec cela, eh bien, la préparation de la fin du mandat et du quinquennat va s'activer.
Les grandes voix sont sur Europe 1 jusqu'à 19h. Une toute petite pause et on revient dans une minute. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
Oser consommer, oser ressortir maintenant que les conditions sanitaires pour le faire sont réunies. En clair, c'est ce qu'a dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ce matin. Emmanuel Duteil qui appelle donc les Français à consommer leur épargne. Quand on sait que beaucoup ont quand même perdu un peu de revenus, ou même parfois beaucoup pendant le confinement, ça peut peut-être être mal perçu quand même, ça, un peu dur à entendre pour certains.
Le problème, c'est que c'est une tradition française. L'épargne, on fait partie des peuples qui épargnent le plus au monde parce qu'on n'a tout simplement pas confiance. Ce qui est même fou, c'est que nous, quand on nous donne de l'argent, quand par exemple il y a des baisses d'impôts, quand il y a des jolies primes qui arrivent, l'économétrie française est très particulière puisqu'on en dépense un tiers et on en met de côté les deux tiers parce qu'on se dit toujours que l'État va nous reprendre à un moment ce qu'il nous a donné. Donc vous imaginez en période de crise que ça donne. Donc effectivement, il y a des dizaines de milliards d'euros qui ont été placés sur les comptes, principalement parce que les gens se disent que les impôts vont augmenter demain pour payer tout cela, parce qu'ils ont eu du chômage partiel et qu'ils s'inquiètent énormément pour la pérennité de leur
Elle
emploi
parle
et
de
tout.
60 milliards d'euros qui auraient été économisés et mis en
épargne
pendant le confinement.
Entre 50 et 60, effectivement, c'est les chiffres qui circulent. Après, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement travaille à des dispositifs en ce moment pour nous donner envie de dépenser. Alors, il y a déjà eu la prime à la casse, à la conversion pour les voitures, avec une offre promotionnelle comme on n'avait jamais connue. Hein. Allez, venez donc, vous achetez les 200 000 premières voitures, c'est pour ça que ça marche. On n'a jamais connu quelque chose premières. Comme ça. Hein. C'est vraiment, on avait l'impression que le président de la République était Carrefour. Deuxième point très important, c'est qu'ils sont en train de travailler à des dispositifs. Ils l'ont fait, par exemple, avec les chèques restaurants, où là, maintenant, quand les restaurants vont rouvrir, vous allez pouvoir, pour ceux qui bénéficient de tickets restaurant, de dépenser 39 euros par jour en tickets restaurant dans les restaurants. C'est une manière de sortir de l'épargne, de donner envie aux gens de dépenser. Et puis ils vont sûrement flécher des choses vers l'économie verte. Là aussi, si vous changez votre chaudière et tout, vous pourrez plus facilement sortir de l'argent, etc., etc.
Donc du coup, on attend un peu avant de dépenser parce qu'il y aura peut-être des promos.
Ah, je devrais peut-être pas dire ça si je suivais la doctrine gouvernementale, mais vu que je suis pas là pour faire ça. Oui, attendez un peu, il y aura sûrement de bonnes mesures qui vont vous... Quitte à dépenser, au moins vous aurez une petite incitation. Sauf si vous avez besoin d'une voiture, vous pouvez y aller tout de suite.
Il y a plus de gens globalement qui ont gagné, qui ont mis de côté, plutôt que de gens qui ont perdu des revenus.
Non. Quand il y a 9 millions de gens au chômage partiel, voilà. Dont une énorme partie...
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser en ce moment.
Et puis, par exemple, par ailleurs... par rapport pardon, à ce que disait Mickaël Darmon à l'instant, c'est-à-dire que quand dans de nombreuses familles, vous avez, c'est toujours pareil, hein, vous allez entendre que quelqu'un a perdu son job ou que la pérennité de son job est en question, vous n'avez aucune envie de changer la télé ou de changer la voiture. Donc, là on entre dans une période économique extrêmement incertaine. Après, il y a un scénario qui existe, hein, sur lequel quand même je crois le gouvernement travaille, c'est et si la reprise était très forte et très très rapide. Si par exemple la saison touristique était excellente cet été parce qu'on reste tous en France, on dépense comme pas possible parce qu'on en a eu tellement ras-le-bol, moi j'y crois pas une seule seconde. Hein. Mais bon, on verra bien.
Mmh. Et d'ailleurs, la saison touristique, c'est... il y a eu ce discours ce matin de Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, qui était sur Europe 1 dans la matinale. Réservé citoyen, mais citoyen, ça devient un acte citoyen de consommer et de consommer en France. Mickaël, oui. Alors, il y a un discours sur ce consommer français.
Ah oui, c'est un discours très patriotique, puisque après avoir dit donc ce matin sur l'antenne d'Europe 1 réservé citoyen, en fait, on se souvient qu'il y a quelques jours, il avait dit attention, vive les vacances et l'été bleu, blanc, rouge. Donc on voit bien qu'il y a une volonté comme ça.
Et il y aura une campagne de com, je crois.
D'encourager effectivement un tourisme patriotique.
Mais ce qu'il y a, c'est que tous les pays vont faire la même chose.
Exactement, tous les pays vont faire la même chose.
Vous voyez que la Grèce avance son ouverture de frontières pour certains pays.
Et il faudra aussi que tous les moyens soient mis en disposition. Par exemple, on a vu et qu'on a entendu, hein, la colère notamment des restaurateurs qui considèrent en Île-de-France que la manière dont les restaurants et les bars vont rouvrir eh bien, n'est pas justement à la hauteur de leurs attentes. Donc il faudra aussi que, une fois de plus, dans la compétition mondiale, eh bien, l'attraction et l'attractivité française soient aussi au rendez-vous.
On va revenir sur ces réservations lancées pour les vacances d'été à partir de 19h dans le journal et avec mon invité ensuite. D'abord, peut-être arrêtons-nous avec vous, Eve Roger, sur cette nouvelle, sur ces nouveaux éléments qui semblent affaiblir l'étude qui avait mis un coup d'arrêt à l'hydroxychloroquine, Eve. C'est cette étude qui avait tout déclenché, l'arrêt la suspension des essais, l'arrêt de la prescription en France, les recommandations de l'OMS. Finalement, cette étude ne serait pas fiable. Vous y comprenez quelque chose, vous, Eve Roger, expliquez-nous.
Alors, ce que je comprends, c'est parce que j'ai appelé quelqu'un cet après-midi, qui a signé, c'est des dizaines de scientifiques à travers le monde qui ont écrit une lettre ouverte, je ne sais pas si vous avez vu ça, et qui, au Lancet, en demandant des explications sur cette étude du Lancet. Et donc, ce professeur français m'a un peu expliqué la situation, et c'est vrai qu'il dit, il y a une dizaine d'essais cliniques aujourd'hui sur l'hydroxychloroquine aussi à travers le monde, et que c'est très important pour eux de savoir si effectivement il faut arrêter ces essais cliniques, et si c'est dangereux pour les patients qui en ce moment utilisent ce traitement-là. Donc, quand je lui parle de Didier Raoult, il me répond, mais moi je m'en fiche complètement, Didier Raoult, c'est pas pour ou contre Didier Raoult, c'est vraiment, est-ce qu'on doit continuer ou pas ce traitement? Est-ce que nos patients sont en danger? Et il me dit, c'est une tradition, quand il y a plusieurs scientifiques comme ça à travers le monde, c'est une tradition dans le monde scientifique, mais sauf qu'on ne les regardait jamais comme ça avant, ouais, d'aussi près, de demander des explications sur des études. Ils ne disent pas, comme Didier Raoult le disait, c'est une étude foireuse, ils disent, on a besoin d'explications, on a besoin de savoir, de comprendre comment vous avez fait, quels sont vos outils, quelle est votre méthode, pour que nous, on puisse savoir pour nos patients, et ils veulent les données brutes de cette étude pour voir s'ils arrivent au même résultat.
Donc ça ne veut pas dire que cette étude est foireuse,
non,
pas encore.
Non, pas encore.
Vous avez vu, il vient de faire sortir une tribune justement, Didier Raoult à l'instant.
Oui,
il dit
que
les publications scientifiques véhiculent de fausses informations.
C'est pas ce que disent les scientifiques. Alors il y a des Anglais, des Australiens, vous pensez bien qu'ils s'en fichent de Didier Raoult. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès aux données brutes et pour pouvoir ensuite, ce qu'ils ils disent, reproduire les résultats pour savoir comment ils ont fait et si c'est résultats sont solides et robustes. Et c'est vrai que Jimmy Mohamed le disait, il y a une coquille, donc on se dit, s'il y a une coquille, pourquoi il n'y en a pas 10, pourquoi il n'y en a pas 20, pourquoi il n'y en a pas 100? Le seul problème de cette étude-là, c'est que les données scientifiques sont aux mains d'un institut privé qui s'appelle Surgisphère. Alors que d'habitude, c'est plutôt des hôpitaux publics, donc c'est pas compliqué d'avoir accès aux données brutes. Le problème là, c'est qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir accès aux données brutes, et s'ils n'ont pas accès aux données brutes, effectivement, on restera dans l'expectative.
En tout cas, on voit que c'est déjà utilisé dans sa communication par le professeur Raoult. Merci à tous les trois, les grandes voix. Mickaël Darmon, on vous retrouve dimanche, 10h, le grand rendez-vous Europe 1. Vous recevrez l'ancienne ministre Ségolène Royal. Merci à tous les trois. Merci à vous, Eve Roger, Emmanuel Dutheil, tous les trois de nous avoir accompagnés tous les soirs depuis le début du confinement pour décortiquer tous les aspects de cette crise. Lundi, le retour des grandes voix historiques. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney, Michel Cotin avec nous à partir de lundi. Dans un instant, le journal de 19h. À tout de suite. Europe 1.